Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres. Dès maintenant sur Amazon.
Radio Classique avec David Abiker.
Esprit libre à 8h45 sur Radio Classique avec Routel Krief, éditorialiste à LCI, et Marc Lambron de l'Académie française. Marc, j'ai un tas de messages pour vous suite à la chronique de 7h20, notamment dit-on de concert ou de conserve, pourquoi dit-on en Arles et en Avignon et pas à Arles et à Avignon, etc., etc., etc. Il y a même un auditeur qui nous dit est-ce qu'il faut dire paniquer ou être pris de panique?
Bref. C'est très bien pour les gens qui se lèvent à 7h20.
Ça va vous donner, merci. Ça va vous donner du boulot pour l'année prochaine. Commençons avec Pompidou et cette question. Georges Pompidou inspire-t-il Emmanuel Macron? Georges Pompidou, dont on célébrait l'anniversaire de la disparition hier. Macron qui avoue aimer la bagnole, alors qu'il n'a pas dû conduire lui-même depuis quelques années. Le Macron qui veut arrêter d'emmerder les Français, qui veut débureaucratiser la France. Le Macron qui aurait bien voulu entrer à Normale Sup. Bref, il y a une nostalgie Macron, au moins.
Une nostalgie Pompidou, vous voulez dire?
Oui. Enfin, une nostalgie de Macron, de Pompidou.
Oui, peut-être
oui, Pompidou
un petit peu.
Regrette beaucoup les années Macron, c'est ça qu'on voulait dire.
Non, on a l'impression qu'effectivement, logiquement, il devrait plutôt, et on le compare très souvent à Giscard par son côté libéral, mais il a une nostalgie Pompidou sur l'industrialisation, notamment. Il veut être celui qui modernise et qui réindustrialise la France après la grande industrialisation faite par Pompidou. Mais il y a une différence, me semble-t-il. Jean Garrigue, l'historien dans Le Monde hier, fait une étude très poussée des comparaisons entre les deux. C'est quand même qu'il y avait des choses qui marchait mieux sous Pompidou. Ça fonctionnait, il y avait un État fort qui prenait des décisions, et il y avait la Datar, le plan, etc., etc. Tout fonctionnait, et c'était ça. La nostalgie Pompidou, pour moi, aujourd'hui, c'est un gouvernement qui fonctionne, un État qui fonctionne, même s'il y avait des bisbilles politiques, on se souvient de Chaban remercié alors qu'il avait eu un vote de confiance. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de jalousie, je vois Marc qui s'agite et qui proteste. Mais bien sûr, hein, la politique régnait, évidemment, et les bisbilles aussi. Il n'y avait pas la violence à laquelle on assiste, il n'y avait pas les tensions auxquelles on assiste. Et il y avait, une popularité jusqu'au bout du mandat, hélas interrompu par le cancer du président Pompidou. Et ça, pour moi, qui analyse la politique, ça m'épate un peu, quoi. Je suis assez épatée parce que je me dis ça nous manque,
Marc,
le sentiment
oui.
d'une forme d'efficacité et de puissance de l'État,
Marc,
aujourd'hui.
Est-ce que Routel Krief s'égare dans la nostalgie, le charme du passé? A-t-elle vu trop de films de Claude Sauté avec des Serge Reggiani, la clope au bec comme le président Pompidou? Rêve-t-elle d'un avant qui n'a pas existé?
Elle a le charme qui n'est pas celui du passé. Elle s'égare rarement. Alors sur Pompidou, l'unisson, l'unisson français, bon, il y a toutes les qualités qu'on lui reconnaît, mais je vais dire autre chose, je vais faire un peu d'égo-histoire, comme dit mon confrère Pierre Nora.
On en parlera demain avec Michel Vinocq, qui est notre invité.
J'avais 16 ans en 1973, et je me souviens de quoi? Je me souviens d'un pouvoir conservateur, sinon répressif. En effet, Ruth vient de parler de la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas, qui avait été congédié parce qu'il irritait le président et qui va chercher le grognard Pierre Messmer pour le remplacer. Je me souviens du ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin, qui probablement a été un des plus répressifs de la Ve République. Je me souviens du pompeux Maurice Druon à la culture. Je me souviens...
un académicien,
bien
je suis
sûr.
D'accord avec
je me souviens,
Marc, hein.
J'ai pas fini. Je me souviens de la loi Debré qui avait jeté des dizaines de milliers, c'était sur les sursis militaires de lycéens dans la rue. Il n'y avait pas LFI, mais il y avait Action Directe, donc qui
oui.
était en gestation.
Ils
non,
avaient
non.
des pistolets.
Donc,
hein.
Moi, mon souvenir, c'est que c'est Giscard qui, au fond, va donner de l'oxygène sociétal, comme on dit aujourd'hui. Il a 48 ans quand il arrive au pouvoir, et contre les burgraves de l'ancien monde. Donc Pompidou, industrialiste, je le mets aussi du côté de l'aérotrain, c'est-à-dire des choses, des vieilles choses sympathiques et un peu disparues.
Alors, j'ai une question. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question.
Je suis complètement d'accord avec avec Marc au sens où la société était bloquée quand même et que par exemple les milieux féministes bouillonnaient mais elles n'avaient aucune conquête, elles n'arrivaient pas à avoir des résultats, le statut de la femme restait quand même très traditionnel, etc. Je suis tout à fait d'accord sur ces réserves sur la société, mais je parle de l'efficacité de l'État qui nous manque et qui suscite un sentiment de l'impuissance qui crée beaucoup de frustration et qui conduit aux extrémismes.
Est-ce que c'est aussi les toutes dernières années des 30 glorieuses, comme
bien
on l'a
sûr,
dit.
Donc,
est-ce que c'est pas dans ces 30 glorieuses que l'État surpuissant n'a pas fabriqué de la surréglementation, tellement fier de ses hauts fonctionnaires et de sa façon de fonctionner, la surréglementation qu'on essaye de détricoter aujourd'hui parce qu'on étouffe sous la bureaucratie. Bon, est-ce que c'est pas ça aussi les 30 glorieuses? Un État trop sûr de lui?
Je suis pas sûr, parce que vous aviez des grands aménageurs, des Bloch Lenné, des Simon Nora, qui avaient des options assez efficaces et je dirais presque rustiques. C'est-à-dire, on décide de faire la force de frappe, on décide de faire le Concorde.
On y va.
Je pense qu'au contraire, c'était une société qui était moins entravée, pour le coup, par la folie réglementaire.
Vous n'avez pas répondu à ma question, l'un et l'autre, sur est-ce que Macron est inspiré par Pompidou? Est-ce qu'il marche dans ces pas où, finalement, c'est une inspiration de circonstance, ça s'arrête hier?
Alors...
C'est pas grave.
Est-ce que son premier ministre actuel, c'est quoi? C'est Chaban ou c'est Mesmer? Il faut reprendre point par point. Je ne sais pas ce qu'on dira à Ruth. Est-ce que Darmanin, c'est mieux que Marcelin? Est-ce que Rachida Dati, c'est mieux que Maurice Druon?
Je crois que comparaison n'est pas raison et c'est pas totalement le sujet. Parce que, par exemple, Emmanuel Macron aime bien essayer de se piquer, de montrer ses lettres, mais ça n'a rien à voir malgré tout avec Pompidou quand même. Non, c'est pour moi ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre en quoi il y aurait cette nostalgie, mais je suis tout à fait d'accord, c'est Giscard qui déblaye le terrain sur la société et qui libéralise réellement la société alors même qu'il y avait eu 68 avant.
Et c'est le prochain sur la liste des hommages.
Exactement, et ça va arriver très vite.
Une différence, c'est que dans mon souvenir, à l'époque, on ne faisait pas grief à Georges Pompidou d'être passé par la banque Rothschild. Et aujourd'hui, il y a des marqueurs d'infamie, si j'ose dire, qui à l'époque étaient accueilli de manière plus placide.
Tout à fait, tout à fait. Ils ont ce point commun, c'est vrai. Ils sont passés tous les deux par la banque Rothschild.
C'est le privilège du chef, et dans toutes les tribus, d'organiser le culte des morts. Hein, ça vaut pour, des rituels de toute petite communauté, et ça vaut pour la communauté nationale. Et donc, effectivement, Emmanuel Macron devra organiser le souvenir et parler en souvenir de Valéry Giscard d'Estaing prochainement.
Il y aura un colloque en mai sur Valéry Giscard d'Estaing.
Alors, que va-t-il dire à ce moment-là? Que va-t-il aller chercher dans la mémoire giscardienne?
Non, il faut dire qu'à l'époque dont on parle, il y avait un stock de futurs morts prestigieux. Tous les compagnons de la Libération qui étaient encore là. Enfin bon, je pense qu'aujourd'hui, les célébrations, elles sont fatalement rétrospectives parce qu'on ne va pas s'auto-célébrer et voilà, il y a moins de Geneviève de Gaulle ou de Germaine Tillon. Mais pardon.
VGE, c'est quand même quelque chose. Rendre hommage à VGE, c'est quand même invoquer des réformes de société importantes.
Bien sûr. Non, mais c'est ce qui a beaucoup marqué et ce sera la marque. Justement, je pense que Giscard a compris ce qui avait manqué à Pompidou. Et ce sont les phrases du discours de Chaban sur la nouvelle société. Il dénonce cet archaïsme des structures traditionnelles, des structures sociales traditionnelles. Et il les dénonce au grand déplaisir de Georges Pompidou. Donc c'est vrai que là, on voit bien le germe de ce qui va arriver après. Mais encore une fois, rappelez-vous, 5,8% de croissance jusqu'en 73, une dette de 14,1% du PIB et 5% seulement de chômage et un excédent budgétaire. Oui, ça existait, je vous le rappelle. Un excédent budgétaire sous Pompidou. C'est ça dont se souviennent peut-être avec nostalgie un certain nombre de Français.
En même temps, on ne fait pas l'amour avec un taux de croissance.
Ça rend plus optimiste. Ça donne un peu le sentiment que tout est possible. Or, aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est que rien n'est possible.
Ceci dit, aujourd'hui, il y a des gros déficits et on fait moins l'amour. Hein. C'est ce que disent les enquêtes.
Ça change rien, en tout cas.
Bon, j'ajoute une dernière chose sur le président Giscard d'Estaing. Je vous signale que le 25 avril, c'était dans 3 semaines, aura lieu l'élection à son fauteuil de l'Académie française.
Voilà.
Donc là aussi, il y aura un successeur qui le célébrera dans quelques mois.
Est-ce que Laurent Fabius est toujours candidat? J'ouvre une parenthèse.
À ma connaissance, il n'a pas envoyé sa lettre de candidature. Il peut le faire jusqu'au 11 avril.
On parlait des célébrations de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing. Elle est à venir. Une autre façon de célébrer, c'est celle que les Verts utilisent pour écœurer Julien Bayou et lui faire quitter le parti Europe Écologie, les Verts. Il a donné sa démission hier au terme d'un feuilleton sur sa vie privée, sur les violences psychologiques qu'il aurait infligées, avec procédure judiciaire ouverte récemment, avec une autre plainte, etc. On n'y comprend plus rien. Mais en clair, la justice n'avait pas tranché, mais le politique a démissionné. Ruth.
C'est une grande gêne devant cette affaire, vraiment un grand malaise. Pourtant, mon cœur va quand même, mais vous le savez, aux causes féministes et à la parole des femmes et vraiment à la lutte contre les violences, quelles qu'elles soient, y compris psychologiques. Mais je suis très très gênée par cette affaire. Elle me met très mal à l'aise parce qu'il y a une enquête judiciaire. Il y a une enquête et on a l'impression qu'il y a une forme d'enquête policière qui se conduit en même temps à l'intérieur du parti avec une forme d'appel à la délation alors que c'est une affaire quand même privée et qui est déjà traitée puisqu'il y a une enquête judiciaire. Et donc là on a le sentiment que ça va trop loin et que on pousse vraiment trop loin les méthodes. Je suis très très mal à l'aise et j'ai pas une sympathie particulière ni pour les uns ni pour les autres. Je ne connais pas très bien l'affaire. C'est juste que j'ai l'impression de méthodes qui sont totalement déplacées et qui sont abusives.
C'est des purges, tout simplement. Ça s'appelle des purges. C'est la poursuite des purges par d'autres moyens et sous d'autres prétextes. Marc Lambron, pour terminer.
Je ne vais même pas me prononcer sur l'affaire Bayou parce que je ne connais pas le dossier. Et en effet, c'est prématuré. On a déjà vu quand même des Verts qui contrôlaient mal leur sève. Nous avons eu l'écologiste TF1, Monsieur Hulot. Là, il semble que ça soit avéré. Nous avons Denis Baupin qui harcelait les jeunes pousses, si j'ose cette métaphore végétale, au parti. Donc, est-ce que le vert est dans le fruit bio? Mais là, je l'écrivais VER. C'est la question qui se pose. Évidemment, c'est toujours intéressant de voir comment des libertaires se transforment en procureurs dans l'organisation interne de leur parti et les procédures. En effet, quand vous parlez de purge ou d'exclusion, est-ce qu'il y aurait du Staline dans le compost? Telle est la question.
Vert mercredi prochain pour vous retrouver tous les deux. Ruth Elkrief.
VRT, moi j'aime bien vert, vous savez pourquoi.
Moi c'est VERS. Je me projette dans l'avenir. Ah, vert mercredi prochain.
D'accord. À la bi-vert.
La bi-vert de Marc. Bravo.
En vert et contre tout.
Je vous dis à la semaine prochaine. Marc, à demain, dès 7h20, pour Ici on parlait français. On va se quitter avec l'air du Brésilien d'Offenbach, interprété par Dario Moreno, chanteur de variété mais également d'opérette. C'est aujourd'hui l'anniversaire de sa naissance. Il est venu au monde un 3 avril 1921.
Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens encore. Deux fois je suis venu déjà, j'avais de l'or dans ma valise. Des diamants dans ma chemise, combien a duré tout cela? Le temps d'avoir 200 amis et de mes 4 ou 5 mètres et 6 mois de galantes ivresses. C'est plus rien en Paris. En 6 mois tu m'as tout raflé et puis vers ma jeune Amérique, tu m'as pauvre mélancolique délicatement emballé. Mais je brûlais de revenir et là-bas sous mon ciel sauvage, je me répétais avec rage une autre fortune en mourir. Je ne suis pas mort. J'ai gagné tant bien que mal de somme volée. Je viens pour que tu me voles tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé.